Cette Nina, franchement, elle aurait dû s'en tenir à son girls band. On ne s'improvise pas actrice du jour au lendemain. C'est normal que ses fans soient en colère.
Oh, elle a le droit d'évoluer. C'est pas parce que toi, tu es resté enraciné à la même place que tu dois empêcher les autres de diversifier leur carrière.
Diversifier, ben voyons. C'est surtout mettre encore moins de vêtements que lorsqu'elle était sur scène.
Et revoilà Ed, le garant de la moralité. Les femmes du monde entier ont besoin de vos conseils vestimentaires, monsieur.
Et là, mais t'as vu ce qu'elles font là? Non mais tu vas pas me dire que c'est normal.
Ben, les mannequins, et c'est une séance photo. A priori, c'est raccord.
Non mais elle est à moitié à poil.
Alors attends. Hop, bouge pas. Voilà. En même temps, sur cette photo là que tu m'avais envoyée par erreur, t'étais pas beaucoup plus habillé. Hein.
Attends, mais tu m'avais dit que tu l'avais supprimé. Efface ça tout de suite. Déconne pas, donne-moi ce téléphone.
Non.
Le samouraï et la soubrette. Shambhala! Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre format
Shambhala!
Qui sera consacré cette fois-ci au film Perfect Blue, un film sorti au Japon en 1997 et paru en France d'abord en 1999, puis remontré dans différentes séances depuis 2018. C'est un film donc réalisé par Satoshi Kon et produit par le studio Madhouse. Est-ce que Jean, tu voudrais nous faire un petit résumé du synopsis?
Oui. Alors on suit l'histoire de Mima, qui est une chanteuse, une idole, hein, chanteuse d'un groupe qui s'appelle les Sham. Elles sont trois. Et donc le début du film nous présente son dernier concert, puisque à l'issue de l'avant-dernière chanson, elle annonce à son public qu'elle va quitter le groupe pour rediriger sa carrière vers le métier d'actrice. Voilà, donc il s'agit, donc Perfect Blue est ce qu'on appelle un thriller psychologique. Il se trouve que cette décision va être très mal prise, très mal reçue par certaines personnes, et de plus en plus d'événements tragiques vont avoir lieu autour d'elle, à savoir des attaques ou des meurtres qui vont toucher par exemple des personnes qui auront perturbé son dernier concert, ou des proches autour d'elle dans son travail.
C'est ça. Jean, toi, de façon générale, il me semble que c'est un de tes films de préférés. Est-ce que tu peux nous dire ton avis dessus?
Ouais. Alors bon, j'aime beaucoup la filmographie de Satoshi Kon dans son ensemble, même si je ne peux pas me vanter d'en avoir tout vu. J'aime beaucoup le travail de ce réalisateur autour de tout ce qui est mise en scène et transition, notamment transition d'un plan à l'autre, qui sont un peu une marque de fabrique du bonhomme. Perfect Blue, ça m'a bien scotché à mon siège quand je l'ai vu pour la première fois. Il porte bien, je trouve, son qualificatif de thriller psychologique. Il est assez intéressant. Je trouve que visuellement, je vais pas dire qu'il a pas pris une ride, parce que c'est pas vrai, évidemment, c'est la fin des années 90, mais il est encore tout à fait regardable aujourd'hui, y compris un upscale sur un écran UHD à partir du Blu-ray, qui est quand même relativement propre. Ça a été plaisant à suivre, ça a bien prenant, et grosso modo, j'ai retrouvé un petit peu les marques de fabrique du bonhomme que j'apprécie. Et de ton côté, du coup?
Pour moi, c'est un film fondateur. Faut voir que c'est le premier long métrage de Satoshi Kon. C'est assez impressionnant de voir autant de maîtrise du médium pour une première réalisation. En tout cas, c'est un film qui laisse voir ce que sera par la suite les thématiques qui l'obsèdent, hein, notamment tout ce qui va être son rapport à la réalité et au temps de façon générale. C'est un animé qui a un parti pris vraiment ultra réaliste et brut, voire vraiment cru. Certaines scènes sont en termes de mise en scène sont volontairement très dans ta face, dirons-nous.
Ouais.
Et en fait, avec une direction artistique qui va interroger les désirs et les motivations des personnages jusqu'à faire douter le spectateur de la notion de réalité, quoi.
Oui,
c'est vraiment il n'y a pas beaucoup de films qui et là j'utilise vraiment pas film d'animation mais de film qui utilisent aussi bien la grammaire du montage, on va dire.
Ouais. Du coup, si tu devais garder un truc,
ben clairement la mise en scène, hein. Ouais. C'est la mise en scène en fait qui est déjà il y a elle est vraiment impressionnante grâce au goût pour le détail. On va tout ce qui est les chambres, les bureaux, les studios, les décors, en fait, ça fourmille d'éléments qui rendent le tout tangible. Et donc on se croit dans un monde vraiment très réaliste et tangible. Et ça renforce l'efficacité de la narration quand le réalisateur commence à jouer sur le montage pour représenter un personnage principal dont les pensées partent en vrille.
Ouais.
Il y a tout qui va, il y a tout qui, on va savoir, mais qu'est-ce qui se passe, quel personnage est en train de voir, qui est en train de faire ça, mais c'est pas logique par rapport à ce qu'on a vu juste avant, mais c'est la représentation de qui. Et c'est parce qu'on a des repères visuels et des repères des choix artistiques qui sont forts qui fait que ça marche aussi bien. Voilà, c'est vraiment, c'est même pas on tord la réalité, c'est on tord la perception de la réalité. C'est ça qui est vraiment intéressant dans Perfect Blue. Toi, c'est j'imagine que c'est quelque chose qui est à peu près équivalent à ce que je viens de dire.
Oui, alors évidemment, s'il y avait une seule chose à garder, ce serait la mise en scène qui est absolument incroyable. Comme tu l'as dit, il y a aussi une très grande maîtrise du montage au service du propos. Du coup, pour pas répéter tout ce que tu nous as déjà dit et que tu as très bien dit, j'ajouterais la non-linéarité de la narration, qui est quelque chose, donc voilà, encore une fois, qui me touche assez facilement. Tu veux parler de perception et perception de la réalité. Et effectivement, on est relativement, le spectateur est mis à mal sur ce point. Et la narration, oui, et aussi la non-linéarité de la narration servent très très bien ce propos. C'est à tel point que des fois tu te dis, y a un passage dans le film, tu te dis, attends, what? Attends, mais non, mais depuis le début en fait, c'était pas du tout. Ah, mais si, mais non, mais ah, bah en fait, je sais pas trop. C'est vraiment super. C'est pas le film à regarder en posant son cerveau. Hein. En même temps, généralement, quand on dit qu'on va poser son cerveau avant d'aller regarder un truc, c'est vraiment que il y a un problème, quoi. C'est pas vraiment une qualité, quoi.
C'est pas un problème, c'est que les attentes sont particulières.
Voilà. Là, vraiment, il faut s'impliquer dans le visionnage. Et en même temps, tout est fait pour qu'on s'implique sans trop de difficultés, parce que c'est vraiment prenant et c'est assez. Et c'est assez gratifiant aussi de le revisionner en ayant certaines clés de compréhension supplémentaires pour voir que malgré tout, c'est encore difficile d'être tout à fait sûr de comment interpréter certaines choses.
Ouais, d'ailleurs, je conseille fortement le documentaire Satoshi Kon, l'illusionniste, qui retrace toute la carrière de Satoshi Kon à travers ses films et qui va donner encore plus de clés de compréhension sur ce film en particulier, sans en dévoiler l'intrigue, mais vraiment juste en se concentrant sur les priorités artistiques de Satoshi Kon, c'est vraiment très intéressant.
Ouais. Du coup, est-ce que tu as un bémol
Alors, c'est pas un bémol, c'est un truc qui va C'est pas un bémol, c'est un truc qui va absolument pas dans le film. C'est ouais. L'intrigue, c'est une intrigue qui est digne des pires romans de gare, quoi.
Oh là là,
c'est un thriller, mais vraiment bateau de A à Z, quoi, avec des personnages qui vont pas au-delà de leurs clichés, que ce soit les membres de l'industrie du divertissement, les producteurs, les managers, les réalisateurs, les scénaristes.
Quand on appuie sur stop, là, sur cette merde, là, c'est où le bouton?
Avec un bonus spécial pour, voilà, il y a un stalker qu'on peut à peine considérer comme humain, voilà, les victimes du serial killer s'enchaînent, honnêtement, c'est à peine si je verse une larme pour eux. C'est là-dessus, en fait, en termes d'impact, l'histoire, l'intrigue, c'est vraiment décevant. Même la révélation finale sur qui, je dis pas si c'est une ou plusieurs personnes, a perpétré toutes ces atrocités. J'ai trouvé ça relativement décevant. Heureusement que justement la mise en scène et les idées visuelles sont bonnes. Parce que derrière, c'est un roman, c'est un thriller comme j'en ai lu plein, et c'est vraiment, vraiment l'un des plus bateaux là-dessus, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de voir qu'on peut très très bien raconter une histoire toute pourrie, quoi.
Ah, je suis sans voix.
Bah, voilà. L'histoire, elle est pourrie.
Excuse-moi.
C'est un grand accomplissement du film, justement, avec une histoire aussi bateau, de faire en sorte de raconter quelque chose d'aussi marquant, quoi.
Ok.
Et toi, qu'est-ce qui va pas dans ce film ?
Eh ben rien. Non mais en toute honnêteté, tu l'as dit, c'est un de mes longs métrages en japanimation préférés. Je pense que je vois de quoi tu veux parler, mais en même temps, comme on l'a dit, notre perception de ce qui est vraiment et de ce qui s'est vraiment passé est tellement mis à mal dans le film, et il y a tellement finalement d'interprétations qui pourraient être faites, que j'ai du mal à résumer l'histoire à cet aspect thriller classique que tu y vois. Et donc ouais, j'ai pas vraiment de bémol à émettre à ce niveau-là. Je dirais peut-être éventuellement que, en termes d'accessibilité, le film ne s'offre pas, ou en tout cas ne s'offre pas tout entier à des personnes qui auraient pas l'habitude d'avoir des trucs qui secouent un petit peu ta perception et qui remettent un peu en question ou en doute tout ce que tu as pu voir avant lors d'une scène un petit peu cruciale. Et c'est possible pour quelqu'un qui n'est pas habitué, qui a l'habitude d'avoir une narration un peu plus linéaire et un peu plus certaine, quoi, racontée par en fait un narrateur omniscient, quoi, d'apprécier le visionnage au premier abord, quoi. Je pourrais éventuellement lui reprocher un petit peu, voilà, le manque d'accessibilité qu'il peut y avoir, mais c'est totalement dû à ce que je trouve être ses plus grandes qualités, donc c'est encore une fois, c'est difficile de faire vraiment ce reproche là quoi.
Oui, c'est pas pour rien après que c'est un film qui a beaucoup inspiré, que ce soit des cinéastes qu'on a vu plus tard comme Aronofsky notamment sur Requiem for Dream ou sur Black Swan. Requiem for Dream, parce qu'il y a une scène, c'est plan pour plan la même scène.
Oui,
d'ailleurs, Aronofsky l'a demandé même à Satoshi Kon s'il pouvait le reprendre.
Et puis, Black Swan, pour le coup, c'est
la même thématique.
C'est assez évident, quoi.
Exactement la même thématique. Et ça, c'est aussi, il y a des gens comme Nolan, clairement, ils se sont inspirés sur des films comme Inception.
Évidemment. Oui, sachant qu'il y a aussi du Paprika, un petit peu, certainement dans les inspirations. Mais encore une fois, Paprika, c'est Satoshi Kon, donc. Voilà. À la réelle. Voilà, très bien. Est-ce que tu as un mot à nous donner pour une conclusion ?
C'est ton film préféré, je te laisse la conclusion.
Alors, mon film préféré, non.
Pardon, c'est un de tes films préférés.
Oui, voilà, parce que je te rappelle que j'ai un top 2 sur lequel je ne mets pas de numéro 1 ni numéro 2, mais deux ex aequo qui sont le Ghost in the Shell de 95 et Your Name de 2016. Mais Perfect Blue n'est pas loin derrière en tête de peloton. La conclusion, c'est on vous a parlé de plusieurs réalisateurs à force. Satoshi Kon, on n'avait pas, à part justement dans les suggestions de visionnage, vous avez déjà mentionné Perfect Blue, on n'en avait pas encore vraiment parlé, me semble-t-il.
Non.
C'est un réalisateur dont la filmographie est intéressante. Et on vous conseille donc de vous pencher dessus, sachant que si l'aspect thriller de Perfect Blue ne vous convenait pas, vous pourrez tout aussi bien adorer en parallèle Millennium Actress, par exemple.
Oui, sur l'aspect historique et histoire du cinéma.
Voilà, c'est ça, sachant que dedans on retrouve encore une fois un très beau travail des transitions, tout en ayant des thématiques et des concepts différents. Ou encore peut-être plutôt vous serez touché par Tokyo Godfathers,
qui pour le coup en termes de thématique est assez éloigné.
Voilà, mais qui brille plus par ses personnages et la façon dont leur destin s'entremêle dans cette histoire. Etc. Donc vraiment, penchez-vous sur la filmographie de ce réalisateur, elle est très intéressante.
Oui, voilà. Et puis, en plus, vous pourrez facilement en faire tour, vu que malheureusement, il ne pourra plus en faire, vu qu'il est décédé il y a une dizaine d'années à peu près.
Voilà. Sur cette note très joyeuse.
Comme Perfect Blue, très joyeux, ouais.
Bon, disons que nous aurons fait un hommage au réalisateur du coup avec cet épisode. Ouais. Voilà, penchez-vous sur cette filmographie, penchez-vous sur Perfect Blue, et puis on vous dit à la prochaine fois pour un prochain épisode, que ce soit au format Shambara ou au format canonique du podcast Le Samouraï et la Soubrette.
Salut,
à bientôt.